La polémologie, l'étude des guerres et des conflits. Bah, aujourd'hui, on sait que quand même, c'est 95% c'est des guerres de religion. Voilà, et on sait qu'Israël et Palestine, il y a aussi cette histoire de territoire, mais à l'origine, il y a quand même une histoire de religion qui perdure.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour mieux cerner notre époque à travers ses mots, ses expressions. Et après 481 émissions consacrées à l'éco-anxiété, l'éco-psychologie, le polyamour, la néo-gentillesse, Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef filloniste, a décidé qu'il était temps de traiter enfin d'un sujet qui lui tient à cœur, la guerre. Il est évidemment ici le seul à avoir une expertise en la matière. Manon et Quentin sont trop jeunes, moi je suis trop suisse. Cyril, lui, a servi au Vietnam. Il aimait tellement l'Amérique et il détestait tellement les hippies qu'il s'est engagé volontaire. Ce fut, je le cite, la plus belle expérience de sa vie. Non, le plus dur fut le retour à la vie civile et on commence à recomposer les morceaux du mystérieux puzzle qu'est la vie de notre rédac chef dont on n'avait jamais compris comment il s'était retrouvé à bosser dans la sécurité à l'ambassade des États-Unis à Paris grâce à cet enregistrement sonore qui m'a été envoyé par un ancien de l'ambassade. On comprend mieux ce qui s'est passé. Pour Cyril, c'était donc pas la guerre qui était dure, mais l'après-guerre.
Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, y a plus rien. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais ici, j'arrive pas à avoir un boulot. Gardien de parking !
Non, Cyril, lui répétait toujours son supérieur, tu n'es pas gardien de parking, tu es responsable du portique de sécurité. You make America safe. Oui, cet après-midi, on va zoomer sur cette guerre qui broie les hommes depuis l'aube des temps en s'attaquant à une discipline aujourd'hui méconnue mais palpitante, la polémologie, la sociologie de la guerre. Cyril remonte son FAMAS et Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Vous me fantasmez une vie incroyable, bah, Mathieu.
Un jour, vous décidez à nous dire comment vous avez atterri à l'ambassade des États-Unis et ce jour-là,
le
vous arrêtez
de fantasmer. Le
simplement. Hop. Suspense. Bonjour, Guillaume Ancel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Guillaume, vous êtes un ancien officier de l'armée française, chroniqueur de guerre. Vous avez écrit de nombreux livres sur vos missions à l'étranger, au Rwanda, au Cambodge, en Bosnie. Vous avez sorti dernièrement Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, chez Flammarion. Et vous tenez un blog sur les relations internationales et les affaires militaires qui s'appelle Ne pas subir. Vous allez tout nous expliquer de ce qu'on appelle donc la polémologie. Juste le temps de vous présenter mes bleubites à moi. C'est comme ça que je les réveille le matin. Un bon coup de clairon et ça démarre. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Heureusement que c'est pas le cas. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Évidemment, ça n'a pas marché ce matin vu que vous êtes arrivé au bureau à 11h.
J'ai fait du télétravail, mais c'est pas possible. Hein.
14h.
Manon,
je vous ai manqué, je sais.
Vous qui avez déjà du mal à tenir la discipline d'un cours de pilates, vous seriez un fiasco sur un champ de bataille. Mais vous êtes tout de même penché sur notre sujet du jour, la polémologie.
En prenant le contre-pied, puisque je vais vous présenter une personne à suivre qui prône la paix dans le monde. Et spoiler, ça va faire plaisir à Cyril.
Ah, mais on a déjà deviné alors. Face à vous, mon lieutenant-colonel, vous êtes lieutenant-colonel. Très bien. Un élément intéressant sur le terrain, car furtif. En cas de guerre hybride, son format compact est un atout. Vous lui mettez son fameux blouson Valentino Rossi et il y a toutes les chances que l'ennemi le confonde avec une cagette de fruits. Le temps qu'il se demande, mais tiens, mais pourquoi elle bouge cette cagette de fruits? Et hop, le sniper d'Alençon aura neutralisé l'ennemi. Est-ce que j'ai toujours de la fièvre?
Oui.
C'est possible, car Quentin, vous êtes évidemment un pacifiste et chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants.
En leur faisant lire un mot qu'ils ne connaissent pas ou mal, la polémologie. Voilà, c'est vraiment un mot qu'on ne connaît pas très très bien dans la rue. Mais c'est le cœur vaillant que j'ai à la fois arrêté des manifestants avec des drapeaux de la Palestine, un libraire et 2 retraités qui se rendaient à des obsèques militaires. Ça ne s'invente pas.
Militaire, et vous les avez rencontrés par hasard.
Par hasard.
Évidemment. Toute guerre a ses zones d'ombre. Cyril, qui n'a découvert que sur le tard que son tonton Helmut officier dans la Luftwaffe, le sait mieux que personne. Vers 16h30, le Zoom Zoom Test sera consacré aux anecdotes de guerre les plus étonnantes. Juste avant 17h, Ahmed Sparrow nous rejoindra aujourd'hui, c'est vrai que c'est mercredi. Mais d'abord, Guillaume Ancel, quand on est militaire, est-ce qu'on a le temps de réfléchir tout simplement aux causes de la guerre? Ou alors il faut, de fait de son activité, rester focus sur la mission sans trop interroger justement les causes de cette guerre. Ça paraît paradoxal de s'interroger.
C'est une question essentielle que je me suis longtemps posée en justement surveillant le parking de l'ambassade des États-Unis. Et je me suis dit, là, est-ce que je ne ferais pas mieux de faire la guerre plutôt que d'y réfléchir? En fait, la question, c'est que quand on l'a fait, c'est compliqué d'y réfléchir trop, d'autant qu'on est plutôt dans un mode survie, ou je dirais de réflexe très concentré sur ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer. Et puis, en fait, la question, c'est avant et après. Parce que ces moments très intenses d'action, ce sont les seuls sur lesquels se focus en général les récits, les films et les vidéos. Mais dans la réalité, ces temps sont surtout entrecoupés d'attentes qui sont longues et particulièrement chiantes, et dans lesquelles on se pose forcément la question de qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère, à quel moment ça va nous tomber sur la tête, et ensuite qu'est-ce qu'on est content d'avoir survécu cette fois, mais qu'est-ce qui va se passer la fois suivante. Les questionnements sont nombreux et fréquents, à condition, et c'est pour ça qu'on parle de culture du silence dans La Grande Muette, c'est qu'on ne les exporte pas. Et ça, ça interroge, en tout cas moi ça m'a beaucoup interrogé, de savoir pourquoi on ne racontait pas ces épisodes qui pourtant intéressent la société, comme si on risquait soit de leur faire peur, ce qui a été le cas dans la société française pendant 30 ans, on leur a fait quand même croire qu'il n'y avait plus de guerre, ou alors on a peut-être peur, les militaires, de nous-mêmes, et de raconter que ce qu'on fait, c'est quand même une succession de saloperies, car pour reprendre le mot d'un de mes très grands amis, la guerre est une succession de saloperies, les militaires sont payés pour les faire et pour se taire.
Eh bien, c'est une émission qui démarre en fanfare. Face à vous, Guillaume, il a donc connu, oui, le Vietnam. Théâtre d'opération qui était familier pour lui, puisque c'était déjà à cause de sa gourmandise. Un déjeuner un peu trop arrosé qui traîne en longueur alors qu'il était de garde, qu'on avait perdu Dien Bien Phu en 54. Foutu Boboun, écrira-t-il amer dans son rapport. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël. Vous êtes cinglé, moi.
Ah, vous êtes grand, c'est vrai.
C'est vrai que je suis gourmand.
Et surtout, je sais plus quel âge vous avez avec mes histoires.
Oui, oui.
Mais vous avez traversé le temps. Magnifiquement.
Ça.
Cyril,
merci, vieux.
Après le temps de l'action, il y a celui de la réflexion. Vous êtes donc en mesure de nous dire la polémologie, d'où ça sort.
Oula !
Ça méritait bien que je vous joue la Marseillaise et que je continue à la jouer.
À parler alors que vous jouez toujours de la flûte. C'est fou ce qu'on vit.
Tant de talent, une seule personne. Car oui, la notion du jour a été inventée par un Français. Gaston Boutoul, né en 1896, mort en 1980, il n'aura pas connu le président Mitterrand. Gaston Boutoul, c'est un sociologue et un philosophe. Et c'est lui qui a introduit le terme au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Polémologie, dérivée du grec polémos, la guerre, et logos, du discours, l'étude. En 1945, il fonde l'Institut français de polémologie, un lieu où l'on étudie les guerres comme des mécanismes complexes influencés par les surpopulations, la compétition entre les pays et les dynamiques humaines. Sa question à Boutoul, c'est la suivante. Pourquoi les humains passent-ils autant de temps à s'étriper? Et une partie de sa réponse, comprendre la guerre, c'est le premier pas pour l'éviter. Ce que nous propose Gaston Boutoul, en fait, c'est une manière d'apprendre comment arrêter de nous battre en apprenant pourquoi on commence.
Et depuis, elle est devenue quoi, cette polémologie?
Eh bien, durant un temps, elle a pas mal disparu. D'autres disciplines ont pris le pas sur cette étude de la guerre, les relations internationales ou la science politique, par exemple. Et de fait, le mot est moins utilisé aujourd'hui. Mais ça, c'était avant. Avant que ce bon vieux, quant à lui, ne propose ce sujet lors d'une conférence de rédaction.
Ah, c'est lui.
Et comme pour une fois, il ne proposait pas de manière de se soigner en faisant du twerk, alors je lui ai dit banco. Et quand on a proposé le sujet à Guillaume Ancel, il a dit que c'était un super sujet. Donc voilà, même quand c'est vieux, même quand on croit que c'est dépassé, eh bien ça reste super. Tenez-vous le pour dit. La polémologie, c'est parti pour une heure.
Merci Cyril pour ce message à peine cryptique.
Ouais.
Guillaume Ancel, grâce à Cyril, on découvre que cette science, la polémologie, moi franchement, je vous l'avoue, c'est la première fois que j'entendais le mot, elle n'est plus vraiment enseignée aujourd'hui. Pour quelle raison? Pourquoi elle a disparu en tant que discipline?
Alors, je vais prendre un exemple, ou plutôt, je vais prendre une référence historique. La dernière guerre officielle en France, qui d'ailleurs n'avait pas été appelée guerre, mais événement, c'est la guerre d'Algérie, qui est censée s'arrêter au tout début des années 60. Et à partir de ce moment-là, la France vit dans une fiction de non-guerre. Ça dure jusqu'à maintenant. En fait, pendant ce temps, on a quand même participé à 34 guerres, sans jamais le dire. Sauf la dernière, la 34e, qui est la guerre en Ukraine, où on commence à reconnaître, à travers, je dirais, des effets secondaires, qu'en réalité, bien sûr qu'on est présent, parce qu'on fournit l'armement, parce qu'on forme des soldats ukrainiens, parce qu'on les aide, y compris sur le terrain, et que par conséquent, on est impliqué dans cette guerre. C'est la première fois qu'on en débat. Moi, je fais partie d'une génération qui a fait Saint-Cyr au milieu des années 80. Je suis arrivé en régiment. Et là, nous avons vu en 1989 le mur de Berlin s'effondrer. On n'en croyait pas nos yeux et on en était très emmerdés. Parce qu'en fait, notre raison de vivre, c'était ça. Et d'un seul coup, tout disparaît. Alors on essaye d'aller chercher l'armée de l'URSS, l'armée soviétique, au fin fond d'une tranchée qu'elle aurait laissée par hasard. Mais il n'y a rien derrière cet écran de fumée. Et on s'invente un nouveau rôle. on va partir en intervention à l'étranger, même quand on ne nous le demande pas. Et on le fera dans la plus grande discrétion, pour que, dans la société française, on puisse se concentrer sur ces sujets de prospérité et de société, sans jamais être emmerdé par cette question qui devient totalement obsolète, la guerre.
Et vous trouvez qu'on n'est pas assez sérieux avec cette question de la guerre ? On en a fait un tabou, alors que ça devrait être un thème, un sujet plus abordé dans le débat public.
Mais c'est un drame. En fait, le drame commence en 2022, avec la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et là, d'un seul coup, les gens, les bras ballants, découvrent que la guerre est là, à nos portes, mais c'est inadmissible. La guerre s'était réservée aux pauvres et à ceux qui habitaient loin. Qu'est-ce qu'on fait avec cette guerre ? Je reprends les mots d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, ils sont extraordinaires. Et c'est lui qui a raison, il le résume en une seule formule. Il nous dit, nous avons cru que nous n'avions plus d'ennemis. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on n'avait plus besoin de faire la guerre. D'ailleurs, l'armée allemande était devenue une armée de papier. Et l'armée française était devenue un corps expéditionnaire léger que toute ma génération a construite, à condition qu'on n'emmerde pas les Français avec et qu'on leur fasse croire qu'ils pouvaient dormir tranquilles puisqu'ils ne seraient plus jamais touchés par ce phénomène qui est pourtant consubstantiel à l'humanité, parce qu'il n'y a que les hommes et les femmes qui se font la guerre.
Et donc, on a délaissé ce champ d'études, sociologiquement, pourquoi on fait la guerre, ce qui fait qu'on est démuni aujourd'hui quand elle se produit.
Vous aviez raison tout à l'heure en disant on a inventé d'autres mots pour contourner l'obstacle, un peu comme si ça devenait un fantôme ou un iceberg contre lequel il ne fallait pas se percuter. Alors, on a dit relations internationales, Sciences Po. Il se trouve que, depuis la guerre en Ukraine, je suis souvent invité dans les médias pour commenter la guerre. Et je suis effaré de voir qu'il y a très peu d'anciens militaires qui le font. Mais alors par contre, pardon, mais il y a florès de spécialistes en sciences politiques et en relations internationales qui n'ont jamais entendu un coup de feu, mais qui vous expliquent ce qu'est la guerre. Au point même que j'ai un ami et homonyme qui m'a un jour écrit un peu violemment « Tu ne devrais pas commenter la guerre à Gaza parce que tu ne connais pas le Proche-Orient. » Et je lui ai répondu « Cher ami, tu ne devrais pas commenter la guerre au Proche-Orient parce que tu ne connais pas la guerre. » Depuis, on se parle moins.
On embrasse Frédéric Ancel qui nous écoute.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Les origines profondes sociologiques de la guerre. Zoom cet après-midi sur la polémologie avec l'ancien officier de l'armée française Guillaume Ancel. Guillaume, est-ce qu'il y a toujours deux, trois causes récurrentes dans le déclenchement d'une guerre ? Est-ce qu'il y a des dénominateurs communs à tous les déclenchements de conflits ?
Oui, d'abord il y a toujours un appel à la radicalisation. C'est-à-dire qu'avant une guerre, il y a toujours des partis extrémistes, comme ceux qu'on voit se développer en France, d'ailleurs des deux côtés, extrême gauche et extrême droite, qui vous expliquent que le seul moyen de résoudre nos problèmes, c'est de s'en prendre à un autre, quelle que soit sa couleur ou sa forme de visage. Et qu'en détruisant l'autre, on va régler des difficultés qu'on n'a jamais su surmonter. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on a fini de les détruire, on réalise que non seulement on n'a rien réglé, mais qu'on s'est créé de nouveaux problèmes. Voilà, donc il y a toujours un appel à la violence et une utilisation de la violence. Notez au passage que les extrémistes qui nous inciteraient volontiers à la guerre n'y participent jamais. Parce que par contre, ils ne sont pas complètement cons, ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas envie d'y passer, et donc ils envoient d'autres faire la guerre pour eux. Et puis, la deuxième raison qui malheureusement apparaît toujours, c'est une forme d'incapacité à trouver un accord. C'est-à-dire que là, on pourrait éviter la guerre. On a souvent, et parfois de manière justifiée, le besoin, en réalité, d'y aller parce qu'on ne voit plus d'alternative. C'est typiquement sur la guerre en Ukraine. Je pense que tout le monde aurait voulu l'éviter en Europe. Mais quand on est face à un empire menaçant qui est dirigé par un chef mafieux qui se prend pour un tsar, Vladimir Poutine, et ben malheureusement, là, on n'a plus le choix et on est obligé de faire la guerre. C'est rarement un acte volontaire. C'est souvent un acte subi.
La multiplication de ces conflits et de leur nature, ça dit quoi de notre monde actuel, là, en 2025 ?
Notre incapacité à les régler. Il y a eu un rêve après la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'ONU. On espérait qu'en parlant, on allait régler et empêcher un certain nombre de conflits. Parler, c'est toujours mieux que la guerre, c'est Winston Churchill qui le disait. Mais en fait, on n'y est pas arrivé parce que peut-être que derrière la guerre, il y a un mécanisme profondément humain d'aller chercher dans la violence le règlement de sujets qu'on ne sait pas chercher par notre intelligence. Notons que nous sommes la seule espèce animale à mener la guerre.
Une question que je me posais en regardant l'actualité, on entend Donald Trump qui a des vues maintenant sur le Groenland. Est-ce qu'on risque de voir à l'avenir un type de guerre qui avait un peu disparu, en tout cas à grande échelle, de guerre territoriale? On a l'impression que les frontières du monde étaient un peu fichées. Bon, à part l'Ukraine, évidemment, c'est un grand exemple. Ça a commencé par l'Ukraine en 2022. Là, maintenant, peut-être le Groenland, on ne sait pas où ça peut s'arrêter.
Oui, et c'est un peu ce qui se passe aussi aujourd'hui au Proche-Orient. Quand sous l'impulsion de Benjamin Netanyahou, Israël étend son territoire annexé au Golan, par exemple, ou commence à montrer que la Cisjordanie ou Gaza pourrait très bien être un territoire israélien. En fait, on ne respecte plus le droit. Et le droit, c'est la construction artificielle qu'on a eue pendant des décennies dans nos sociétés pour espérer en finir avec la guerre. Au fond, respectons le droit. Or, ce qui est terrible avec l'agression de Vladimir Poutine, c'est que lui montre que ses frontières s'arrêteront où ses chars iront. Et Trump a un côté miroir inversé de Poutine, c'est-à-dire que lui aussi, il estime qu'au fond, les frontières... Ben, désormais, ce ne sera plus le règne du droit, ce sera le règne de sa volonté. Je veux le Groenland. Notons cependant que Trump, qui est formellement opposé à la guerre, parce qu'il estime que c'est mauvais pour le business, c'est un bad business ben oui, dans sa langue, il dit « je ne ferai pas la guerre au Groenland, mais par contre, je vais utiliser tout ce qui est en mon pouvoir comme levier financier, sociaux et médiatique pour essayer de récupérer le Groenland contre son gré. »
Est-ce qu'il y a toujours autant de jeunes qui s'engagent dans l'armée française aujourd'hui ?
Il y a, je dirais que l'armée française, d'abord, s'est beaucoup réduite en termes de volume. Donc, ces sujets d'engagement sont différents. Sa question, c'est pas d'arriver à trouver des volontaires, c'est arriver à les fidéliser. Parce que c'est compliqué de garder des jeunes soldats dans un système, en fait, l'armée française, qui, en réalité, n'a besoin que de jeunes. Et dans lequel, souvent, le statut permet de vieillir inutilement. C'est en particulier vrai pour les officiers, mais ça va jusqu'aux soldats, aux militaires du rang, qui, très vite, au bout de 3 ou 4 ans, en fait, ont le sentiment qu'ils refont la même chose et que c'est souvent un métier assez dur, assez ingrat, et ont beaucoup de mal à rester faute en fait, de développement ou d'évolution. Or, on ne peut pas proposer une évolution à tout le monde dans un système qui reste très pyramidal.
Ah, en 42, lui, je peux vous dire qu'il en aurait eu des tickets de pain. Il fait partie de ces personnages pas trop embarrassés par l'éthique qui se débrouillent très bien en temps de guerre. Heureusement, nous vivons en paix, encore pour quelques temps. Et Quentin, c'est avec votre sourire charmant que vous abordez les passants pour les faire réagir à notre notion du jour.
Je marche et je tombe sur Alexandra et sa copine. Cheveux grisonnants, cape de pluie et drapeau de la Palestine dans les mains. Elles rentrent d'une manifestation.
La polémologie. Alors,
est-ce que je vous pose une colle ?
Ah oui, en plus c'était en rapport à la guerre, hein, c'est sérieux. L'étude des guerres et des conflits. L'homme est un loup pour l'homme.
Alors pourquoi l'être humain se fait-il la guerre ?
Bah aujourd'hui on sait que quand même c'est 95% c'est des guerres de religion, voilà, et on sait que Israël et Palestine, il y a aussi cette histoire de territoire, mais à l'origine il y a quand même une histoire de religion qui perdure. Et là on est là à manifester, mais moi il y a des moments j'y crois plus et j'y vais plus parce que qu'est-ce qu'on fait contre toute cette oligarchie là, c'est dur. Moi, je me sens impuissante, vraiment.
Mais alors, est-ce qu'on manifeste pour la paix ? Souvent, les manifestants choisissent déjà leur camp. J'arrête ce jeune homme qui chantonne avec ses écouteurs dans les oreilles, manteau beige, cheveux en bataille à cause du vent. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Pierre.
Pierre, vous faites quoi dans la vie ?
Je suis libraire.
Est-ce que ce libraire connaît le mot du jour ?
La polémologie. Oui, j'ai connu ce mot quand j'étais étudiant. J'ai oublié aussi. Oui, bien sûr, bah, tout à fait, oui.
Une question un peu philosophique, mais pourquoi on fait la guerre ?
Pourquoi on fait la guerre ? Parce qu'on est humain, et que l'humain est profondément mal fait. J'ai envie de citer Oncle Ben de Spider-Man, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On a plein de moyens de réfléchir et d'agir, mais dans l'humain, il y a du très bon, du très mauvais, donc... Parce qu'au fond, on reste quand même des animaux, quoi. Et dans le règne animal, il y a quelque chose d'amoral.
Le règne animal et ses conséquences. Pour lui, il y a une notion de temps aussi. La guerre, c'est cyclique.
Je pense qu'en France, et je dirais plus généralement en Occident, on vit aussi en paix depuis très longtemps. Et on a oublié ce que c'était de devoir défendre un modèle qui peut être rejeté par d'autres. D'autres qui ont les moyens de vous attaquer et de vous faire du mal. Donc la guerre, parfois, on est obligé de la faire. Malheureusement.
J'arrive maintenant devant les Invalides et le musée des armées. Il y a de plus en plus de vent qui vient chatouiller mon micro. Jean et Isabelle, 77 et 76 ans, s'approchent de l'entrée. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, aujourd'hui ?
On va aux obsèques d'une autorité qui s'appelle Valérie André.
On n'est pas triste. Elle avait quand même 102 ans. 102 ans,
bon. Donc c'est bien l'heure de mourir.
Bon, alors...
Elle a fait la guerre d'Indochine, Elle a commencé à être pilote d'hélicoptère en Indochine pour sauver des vies, justement. C'était un médecin militaire. Elle a des décorations à n'en plus finir. Elle est grand...
Les grands croix de la Légion d'honneur, etc. etc.
En les écoutant me raconter qui était cette médecin militaire, première générale de l'armée, je repense à cette archive de Coluche que j'ai vu passer en préparant l'émission et qui avait fait du bruit en 1986. C'est pendant le jeu de la vérité, je leur montre.
Ben oui, mais les Allemands ont fait 6 millions de morts chez les Juifs, ils en ont fait 20 millions chez les Russes.
Oui, mais là n'est pas la question.
Les Américains ont fait 150 millions de morts chez les Indiens, et puis bon, qu'est-ce que vous voulez, voilà, c'est la guerre qu'il faut arrêter. C'est tout ce que je veux dire, hein. Mais que ceux qui ont eu la chance de ne pas vivre la guerre soient régulièrement alertés par ça, c'est faire de la publicité à la guerre, c'est tout.
Est-ce que les commémorations et les médailles, c'est une publicité à la guerre? Jean et Isabelle réagissent.
Mais non, mais attendez, c'est pour ça qu'on parle français, je vous signale, parce qu'on pourrait parler l'allemand, on pourrait parler le russe, on pourrait parler des tas de langues étrangères, mais on parle français. Donc en fait, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à la patrie, comme on dit, qui sont morts pour la France, qu'on peut continuer à parler en français. Enfin... Mais vous savez, c'est quelque chose de donner sa vie pour un pays. Parce que quand vous êtes jeune et qu'on vous dit « Tiens, prends un fusil, va te faire tuer », on réfléchit deux minutes, quoi. Hein. Voilà.
Je reprends l'argument du libraire que j'ai rencontré juste avant. Vous en parliez aussi. Est-ce qu'il y a un côté animal? Mais à une chose près, nous sommes la seule espèce à s'autodétruire.
C'est pas vrai. Ah non, les rats, par exemple, se font la guerre. Parce qu'il y a des bandes de rats qui s'entendent pas, alors ils se font la guerre et ils se tuent. Les fourmis, qui sont des animaux sociaux, se font des guerres. Tout animal social a une raison d'aller cartonner le mec d'en face. Hein. Non, mais c'est vrai.
C'est une question... C'est des histoires de territoire, de nourriture, etc., bien sûr.
D'espace vital. Ça n'a jamais arrêté. Cro-Magnon, il a bouffé Néandertal, et parce que c'était pas son style.
Alors, est-ce que la guerre est en nous? Après tout, si l'on peut s'engueuler avec notre voisin, un pays doit bien pouvoir vouloir en envahir un autre. Mais à quel prix? Finalement, pour tenter de comprendre, intéressez-vous à la polémologie.
Merci beaucoup, Quentin. Et une pensée pour la mémoire d'André, qui a beaucoup compté dans la vie de Cyril, puisque
Valérie André,
puisqu'il s'était fiancé à Saïgon en 52. Guillaume Ancel, la comparaison avec les fourmis, les rats, on disait tout à l'heure que vous nous disiez l'homme est un animal différent parce que c'est le seul qui fait la guerre. Il y a des espèces animales qui, quand même, s'entretuent.
Oui, il y a des espèces qui s'entretuent, mais elles ne se détruisent jamais. Alors que, par malheur, moi j'ai participé à 4 guerres, j'ai traversé 3 génocides. Ce qui est très impressionnant, c'est cette capacité qu'ont les hommes à vouloir s'autodétruire. Et cette volonté, cette mobilisation qu'ils sont capables de mettre en œuvre, quand on regarde par exemple l'industrie de l'armement, on est toujours un peu estomaqué d'avoir d'un côté une espèce de publicité, non pas pour la guerre, mais pour, vous avez vu, on a construit des avions encore plus gros, puis des sous-marins et des fusils encore plus destructeurs. Et puis de l'autre, deuxième, mais tout ça... C'est le génie de destruction de l'humanité. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Alors, c'est toujours pour se défendre. Le problème, c'est qu'en se défendant du défenseur, on finit par faire la guerre.
Vous avez entendu cette archive de Coluche. Les commémorations, c'est une publicité pour la guerre. Commémorer, est-ce que c'est entretenir le fait qu'il faut parfois se défendre ou attaquer?
Ce que j'aime beaucoup chez Coluche, c'est sa manière de se moquer de choses qui devraient nous interroger. Par exemple, quand les Français ont vu ces commémorations assez discrètes, mais récurrentes, de soldats français tués au Mali, en Afghanistan, en Irak. En fait, personne ne s'est interrogé sur pourquoi on faisait la guerre là-bas. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on a l'impression que ces commémorations, c'est uniquement pour dire à tout le monde « Silence, s'il vous plaît, il faut honorer la mémoire de ces jeunes gens ou de ces jeunes femmes qui se sont sacrifiés pour la France. » Mais par contre, il n'y a pas de débat de société autour d'eux. Mais attendez, pourquoi on a fait cette guerre? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas? Qui a décidé d'envoyer nos soldats se battre? Je ne doute pas qu'à un moment, ce soit indispensable. J'aimerais juste... que ce soit un sujet de la société et pas seulement de l'Élysée.
Et justement, sur le pourquoi, est-ce que le gain territorial, c'est quand même encore la principale source de la guerre?
Tout à l'heure, on entendait guerre de religion, guerre de territoire, guerre de pouvoir. Mais en fait, c'est vrai qu'in fine, c'est souvent un sujet de pouvoir. Le pouvoir pouvant s'entendre en termes de religion comme de sol. Est-ce qu'on a le sol le plus grand? Ce qui interroge par exemple beaucoup dans la guerre contre l'Ukraine, c'est que l'Ukraine et la Russie sont deux peuples frères. C'est exactement comme si la France avait déclenché une guerre de dénazification contre nos amis belges. Et on compterait juste le nombre de familles qui sont touchées des deux côtés en disant « mais ils sont complètement timbrés ». Mais il n'y a jamais eu de frontière entre ces deux pays. Donc ça interroge parce que c'est d'abord un phénomène politique et collectif. Je ne connais personne à titre individuel qui se réjouisse d'une guerre. Et pourtant... toute notre collectivité sont prêtes à la faire.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
La guerre n'est jamais une partie de plaisir. Des années, parfois des décennies après, on en conserve le traumatisme dans sa chair. Comme Cyril, notre rédacteur en chef, qui n'a jamais pu remanger un boboon depuis 1954, quand les Viet Minh l'avaient coincé à Dien Bien Phu. Mais la guerre, c'est aussi des anecdotes surprenantes. Jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz qui démarre sur les ruines fumantes de Verdun, avec cette musique qui s'accorde parfaitement au décor. Dans les minutes décisives de la bataille, le sort de la France est suspendu à celui qui recevra après-guerre la bague d'honneur et une citation à l'ordre de la nation. Pour son sacrifice héroïque. Car oui, nous parlons d'une mission kamikaze, puisque ce patriote tentera de franchir les lignes ennemies pour signaler que son unité, postée au Fort Levaux sous la direction du commandant Reynal, est encerclée par les Allemands. Il arrivera à se faufiler entre les balles, mais hélas, le gaz l'intoxique, et il décédera alors même qu'il venait de remettre le message à ses frères d'armes. Et Manon, le plus fou, c'est que ce héros, c'est un con, un pigeon ou un faucon.
B.
C'est aller plus vite du côté de Quentin, lui. Et oui, bien sûr, réponse B.
Un con.
Au revoir, vaillant. Tel est le nom du plus célèbre pigeon de la Grande Guerre côté français. Il sera effectivement décoré, et c'était un petit indice, on ne donne pas des bagues d'honneur aux hommes, hein, seulement aux pigeons. L'armée, c'est pas la NBA. Mais attention, top. On reste en 1918, la Première Guerre mondiale touche à sa fin. Dans le camp anglais, on sait que la victoire est acquise, on jubile, sauf que voilà, on se relâche aussi un peu. Et c'est comme ça que, connement, un soldat anglais un peu trop gentil, un peu trop charitable, va se rendre responsable de la mort de 140 frères d'armes, 1400 frères d'armes, ou 60 millions de militaires et de civils.
C'est, pardon.
B. Peut-être 60 millions, c'est beaucoup.
60 millions, Manon.
Ça doit être un truc énorme.
C'est beaucoup, 60 millions, quand même. Ça fait beaucoup. Vous voyez déjà ce que ça fait, 1 million, Manon. Et c'est la bonne réponse pour Manon Mariani, bien sûr. Comme le dit souvent Cyril, notre rédacteur en chef, la gentillesse, c'est une fausse bonne idée. Alors, comme je lis dans vos yeux une surprise qui confine à la stupéfaction et qui appelle un éclaircissement, je vous l'offre volontiers. Oui, Manon, Quentin, ce soldat anglais est responsable de la mort de 60 millions de personnes. Henry Tenday, c'est son nom, le raconte lui-même au reporter de guerre. Il a vu passer dans sa ligne de mire un soldat allemand blessé et désarmé, mais sachant la guerre gagnée, il décide de le laisser filer. J'ai mis en joue, mais je ne pouvais pas achever un homme blessé, se justifiera-t-il magnanime d'après vous, Manon Quentin?
Je sais.
Qui était ce soldat allemand?
Hitler,
oui, Quentin, oui. Vous avez laissé gagner Quentin. Vous, à la guerre, c'est nul.
Je pensais que vous alliez mettre mon son Hitler, c'est pour ça.
Mon Dieu, quelle horreur.
Mon son Hitler.
Bon. Les auditeurs qui nous rejoignent, qui nous découvrent, doivent s'imaginer des choses
mon
sur vous.
Mon son que Mathieu a pris dans une de mes chroniques, je précise.
Adolf Hitler, Yavol. Là, il y a un son, normalement. Oui, ça, évidemment, il a pas l'air de venir beaucoup, ce son. On dirait un quiz de Pierre Courade.
De Pierre Courade, ouais.
Oui, bon, peu importe, c'est trop tard.
Je n'ai pas entendu.
Moi non plus. Il a été lancé avec 15 minutes de retard et un niveau de solume, un niveau de décibels catastrophique. Tadley, donc, a avoué cette histoire. Une histoire à la véracité qui pose question, quand même. On sait juste qu'effectivement, il s'agissait d'un soldat de la 6e division d'infanterie bavaroise à laquelle appartenait le caporal Hitler. Mais était-ce vraiment lui? En tout cas, Hitler relayait cette histoire. Il conservait un portrait du fameux soldat anglais dans son bureau. Toutefois, le plus beau dans la guerre, c'est réussir à ne pas la faire. Alors que tous tes potes la font, et que cerise sur le gâteau, tu es toi-même dans une école militaire. Les amis, nous sommes aux États-Unis au début des années 70, la guerre du Vietnam est au cœur de tous les débats, et un homme qui va devenir très célèbre pour son côté gros bras, grande gueule, va réussir à esquiver finement la mobilisation. Cet homme, d'après vous, c'est le courageux Sylvester Stallone? C'était pas sa guerre. Donald Trump, il avait autre chose à foutre.
Wow.
Ou Chuck Norris, il avait les pieds plats.
Attends. C'est Chuck Norris.
C'est 46. Non. Trump, B.
Ah, vous avez raisonné en termes de date.
Mais c'est...
Stallone était effectivement un petit peu trop jeune. Bien évidemment, c'était la réponse B.
Ah, c'est bien.
Réponse B, Donald Trump. Effectivement. They want you as a new recruit. No thank you, avait répondu le jeune Donald, très peu désiré d'aller se faire trouer la panse à Big Mac dans une rizière alors qu'il kiffait sa jeunesse au bras de sympathiques jeunes pépés. D'après vous, Manon, Quentin, quelle excuse va-t-il trouver pour être réformé, Donald Trump? Il va prétexter qu'il a une jambe plus courte que l'autre? Il va prétexter qu'il a un problème à l'os du pied? Ou il va rien prétexter du tout, il va juste payer un homonyme pour partir à sa place?
Oh non. B, le pied.
C'est Homonyme.
Moi, c'est ce que vous auriez fait, vous, Quentin.
Ouais.
Vous auriez trouvé un lui quelque part.
Oui,
et Rudy Jeunesse.
Bonne
réponse.
Malin, hein.
Bonne réponse de Manon Mariani. Ah. Petit problème au peloton, un médecin complaisant payé par Papounet et hop, plus de Vietnam. Et le plus fou, c'est que c'est pas une révélation de CNN, mais une confidence amusée de Trump lui-même, qui ajoute l'élégance à la couardise. Je cite "Accrochez-vous, c'est fleuri. Ma guerre du Vietnam à moi, ça a été d'éviter d'attraper des MST durant tous mes rapports sexuels dans les années 80."
Non.
C'est ce qu'il a dit. Hein, fin de citation. C'est là que les destins de Cyril et Donald se font écho. Ni l'un ni l'autre n'a accepté de servir son pays, l'un prétextant un problème au pied, l'autre s'inventant pour l'occasion objecteur de conscience. C'est comme ça que Cyril a échappé au service militaire, il faut le rappeler. Et les deux en disant pudiquement « Bien profiter des années 80 ». Victoire de Quentin, lui.
Sans MST, on l'espère.
On l'espère. On a déjà eu l'honneur de recevoir ici Colonel. Mais aujourd'hui, c'est lieutenant-colonel Guillaume Ancel. Ancien officier de l'armée française. Ah, c'est pas la même, et c'est pas... Non, il porte beau, notre invité aujourd'hui. Guillaume Ancel qui nous accompagne pour zoomer sur la polémologie, la science des causes de la guerre, pour la faire courte. Hein. Guillaume, on parlait un peu entre nous en antenne. Est-ce qu'il faudrait pas remettre la polémologie au programme scolaire? En tout cas, on pourrait peut-être oublier ce nom de polémologie qui fait peur à tout le monde, mais en tout cas, enseigner ou réfléchir un cours dans lequel on réfléchirait aux causes profondes de la guerre plutôt que d'apprendre bêtement les guerres les unes après les autres, ça serait peut-être plus utile.
Ce serait sûrement intéressant et un peu angoissant, parce que c'est vrai qu'en général, ce n'est pas un sujet qui suscite, comment dire, une forme de d'enthousiasme ou de dynamisme. On préfère parler de fric qu'on pourra gagner ou de ce qu'on pourra se payer, justement, plus tard, que de dire « Tiens, moi, j'aimerais bien aller faire la guerre ». Mais de raisonner et de comprendre pourquoi, à un moment, on est obligé de s'engager pour défendre une cause à laquelle on est attaché, c'est probablement un sujet très intéressant. Et c'est très angoissant de se dire qu'on a évité ce sujet pendant des décennies, sans doute aussi, à cause du traumatisme de la guerre d'Algérie, dont personne n'a parlé dans la société française à partir du moment où elle était terminée.
Oui, il y a une chape de plomb. Mais est-ce que cette polémologie, vous l'étudiez un tout petit peu, au moins, dans les écoles militaires? Genre, à Saint-Cyr, on réfléchit quand même aux causes de la guerre. Il y a quand même quelques cours là-dessus, non?
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à Saint-Cyr, on apprend à faire la guerre, mais on n'apprend pas à y réfléchir.
À aucun moment de la scolarité.
À Saint-Cyr. Par contre, dans la deuxième période de notre formation, c'est-à-dire en général 10-15 ans après, quand on se prépare à l'école de guerre, là, par contre, il y a une réflexion très intense sur les guerres qu'on a déjà connues et portées. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, les officiers en particulier en ont soupé. Et par conséquent, il n'y a plus aucune forme d'enthousiasme vis-à-vis de la guerre. Il y a au contraire une profonde réticence.
Alors, vous pouvez expliquer ce que c'est de l'école de guerre?
Alors, pardon, l'école de guerre, c'est le cycle de formation des officiers supérieurs. Donc, en gros, quand ils sont commandants, quand ils ont 30, 35 ans, on leur demande de faire une formation supérieure qui est d'un niveau troisième cycle. Mmh. Ils vont passer 2 à 3 années de formation avant de prendre des responsabilités importantes au sein du ministère de la Défense. Et là, on leur demande de réfléchir à la guerre, mais de réfléchir à tout le reste, c'est-à-dire au contexte économique, aux impacts sociaux, au sujet de ressources humaines que ça peut présenter, au sujet économique et financier, le poids de la guerre. Rappelons-nous, après la période qu'on décrivait tout à l'heure, les dividendes de la paix, où tout le monde s'était persuadé qu'on pouvait économiser d'une guerre comme si c'était nous qui en décidions.
Mais donc avant, on apprend, c'est ce que vous dites d'ailleurs, on apprend à faire la guerre et à se taire, mais vous dites quelque chose d'étonnant aussi, cette culture de silence dans l'armée n'est pas universelle. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, c'est très différent. Vous pouvez nous expliquer?
Oui, alors attention, parce que je distingue bien le fait que quand on est en opération, mais au fond, dans tous les métiers, il y a un secret professionnel. Personne ne va raconter ce qu'il est en train de préparer pour ne pas se faire shipper son sujet, par exemple, dans la prochaine chronique. Mais une fois que la chronique est passée, en fait, les anciens militaires, dans les pays anglo-saxons, la tradition, c'est qu'ils doivent raconter ce qu'ils ont fait. Et ils ne peuvent pas faire carrière dans l'armée. Même les gens qui ont fait Saint-Cyr en Grande-Bretagne, Sandhurst, ou West Point aux États-Unis, en réalité, ils ne sont pas en contrat à durée indéterminée comme les Saint-Cyriens, qui ont vraiment un statut de carrière qui leur permet d'aller en général jusqu'à la fin de leur vie professionnelle. Ils quittent très tôt, autour de 40 ans, et du coup, ils ont tous un passage obligé dans le civil. Et quand ils rentrent dans le civil, la tradition, c'est qu'ils doivent témoigner de ce qu'ils ont fait. Et ça alimente les historiens, mais ça alimente aussi la vie, la société. Et c'est aussi pour ça que dans ces pays, vous avez aux États-Unis, par exemple, quasiment 30% de la population qui a une culture militaire et qui est très nombreuse sur les plateaux médiatiques pour expliquer ce que c'est la guerre, parce qu'ils en ont une expérience, ou en tout cas une approche.
Alors qu'en France, on n'a que vous, finalement. Quasiment.
Oui. Mais justement, Manon, vous parliez du conflit israélo-palestinien tout à l'heure, que vous étiez énormément invité sur les plateaux. Est-ce que la polémologie peut expliquer les causes de ce conflit, ou c'est trop complexe?
Alors je dirais que là, c'est plus un aspect relation internationale, d'arriver à comprendre ce qui a profondément pollué depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, la relation, par exemple, entre juifs et palestiniens dans cette région. Je suis en train de relire Marguerite Yourcenar, Les mémoires d'Adrien, juste il en parle, c'est assez effrayant de se dire que malheureusement, on n'a rien inventé de très nouveau. Par contre, ces militaires, eux, pourrait faire utilement réfléchir la société aux conséquences de la guerre. Je vais prendre juste un exemple. Quand vous avez d'un côté un extrémiste de droite comme Benjamin Netanyahou qui profite d'une attaque terroriste, celle du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui va faire 1400 morts et disparus, pour lancer une offensive non pas contre le Hamas mais contre la bande de Gaza, avec plus de 100 000 bombardements. Et que par conséquent, n'importe quel militaire qui a un peu d'expérience sur le sujet vous le dira, ça fait forcément plus de 100 000 morts. Et ça fait mécaniquement plus de 350 000 blessés. Je pense que les Israéliens, le monde entier, n'auraient pas perçu le sujet tout à fait de la même manière que quand ils s'entendent dire « vous inquiétez pas, on fait des frappes ciblées et proportionnées ».
Et là où la parole d'un professionnel de l'armée est intéressante, vous nous disiez tout à l'heure, vous me parlez d'un type de bombe très précis qui a été utilisé, que le grand public ne connaît pas, qui a été utilisé à Gaza, qui montre que c'est pas du tout ciblé, c'est plutôt de la dévastation de masse.
Les Américains ont fourni quasiment l'intégralité des munitions qui ont été utilisées par l'armée israélienne sur la bande de Gaza. La moitié des bombes qui ont été livrées sont des bombes d'une tonne. Une bombe d'une tonne, ça n'a jamais été fait pour cibler. C'est fait pour imploser un immeuble de 3 étages. Voilà. Donc quand on utilise ce genre de munitions, qui plus est dans un camp de réfugiés avec une très forte densité comme la bande de Gaza, eh ben on sait que chaque fois qu'on en lance une, on fait des morts et essentiellement des victimes collatérales.
Le gai savoir n'est pas toujours très gai. Non. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Manon, c'est l'heure de découvrir l'autre personne à suivre.
Je vous présente Paul Hewson, il a 64 ans, il est irlandais et le monde entier le connaît sous le nom de Bono. Vous vous rendez compte, j'ose faire un portrait de l'idole de Cyril.
C'est très courageux.
Ouais, j'ai un peu peur. Car plus qu'un chanteur, Bono s'est imposé comme une figure majeure des luttes humanitaires. Il a notamment utilisé sa notoriété pour défendre des causes importantes comme la lutte contre la pauvreté, les inégalités et la maladie. Il commence en chanson dès le début de sa carrière avec U2, on est dans les années 80, et le groupe sort donc ce qui va devenir un tube mondial, Sunday Bloody Sunday, on vient de l'entendre, un titre engagé dans lequel Bono dénonce les violences en Irlande du Nord qui ont eu lieu au début des années 70. L'année d'après, le groupe sort Pride in the Name of Love qui rend hommage au leader de la paix, Martin Luther King. Et puis, au-delà de la musique, Bono va s'investir encore plus à partir des années 2000. Il crée l'organisation DATA qui a pour objectif de lutter contre la dette, le sida et les barrières commerciales qui entravent le développement de l'Afrique. Puis 2 ans plus tard, en 2004, il lance la marque Red qui collabore avec des entreprises pour vendre des produits dont une partie des bénéfices est destinée encore à la lutte contre le VIH en Afrique. Bono a joué un rôle central pour l'annulation des dettes aussi dans les pays les plus pauvres. Il a fait pression sur les dirigeants du G8 pour qu'ils réduisent ou annulent ces fameuses dettes. Le but, permettre à ces nations de réinvestir dans des secteurs essentiels tels que la santé et l'éducation. Résultat, en 2008, Bono obtient le titre d'homme de la paix ici à Paris, remis par Bertrand Delanoë. Grâce à son implication, Bono fait partie des rares célébrités ayant eu accès à de nombreux chefs d'État. Il a rencontré par exemple Nelson Mandela, George W. Bush et Barack Obama pour discuter de questions liées au développement, à la santé mondiale et aux droits de l'homme. Ça lui a valu pas mal de critiques. Certains l'ont accusé de naïveté politique, d'autres ont pointé du doigt les stratégies fiscales de U2, car oui, U2 s'est exilé fiscalement aux Pays-Bas, je ne le savais pas, mais voilà. Et il en faut plus, pour arrêter Bono qui continue son militantisme. En 2022, avec The Edge, ils ont donné un concert dans une station du métro de Kiev en soutien à l'Ukraine. Et en début d'année, lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, il a été décoré de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis. Il rejoint la liste prestigieuse des artistes activistes qui ont aussi reçu cette médaille, dont Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Bob Dylan, Stevie Wonder et Bruce Springsteen.
Alors ça, c'est pas Bruce Springsteen, hein. C'est Cyril Lacarrière en régie qui rend hommage à sa manière à son héros Bono.
Mais du souffle.
Il met beaucoup de souffle, il met tout, il donne tout. Guillaume Ancel, des artistes qui prônent la paix, alors vraiment ça manque pas, il y en a eu beaucoup. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou il vaut mieux essayer de déconstruire, d'analyser les causes de la guerre? C'est quand même peut-être plus intéressant.
Je ne sais pas si c'est le rôle des artistes de faire de la polémologie. Moi, je suis assez content quand ils expriment leur souhait que les guerres cessent et qu'ils fassent pression sur les sociétés pour qu'on y réfléchisse à deux fois avant d'en déclencher une. On peut s'interroger sur les 34 conflits auxquels la France a participé sans jamais le dire. Et en sens inverse, on devrait s'interroger sur ce qu'on aurait pu faire pour empêcher que la guerre en Ukraine ne puisse avoir lieu. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, on est tous en train de réfléchir à la manière dont on va envoyer une force internationale pour garantir aux Ukrainiens, puisque que Trump est en train de négocier un stop de la guerre sur la ligne de démarcation. Si cette force, on l'avait envoyée dans les mois qui précédaient la guerre, où les Américains nous avaient abondamment prévenus et fort à propos que les Russes allaient tenter d'envahir l'Ukraine, sans doute que cette guerre n'aurait pas eu lieu.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Gaz moutarde, napalm, mines antipersonnelles, les monstruosités inventées pour venir à bout de l'ennemi sont nombreuses, mais la Convention de Genève vient d'ajouter une nouvelle arme ignoble à cet arsenal de l'horreur, le Zoom Zoom Test présenté par Pierre Courade. 17 minutes de torture, aucun soldat ne mérite de mourir dans ces conditions, voilà pourquoi cette pratique est désormais interdite et tombe sous le coup de crimes contre l'humanité. Cette précision est en fait, écoutons Pierre Courade, tout ce qu'on s'est dit, mais en une minute chrono, Pierre.
Vous êtes dur, Mathieu, ouais. Dur comme une trique, hein, comme dirait Cyril Lacarrière. Écoutez, c'est à peu près pareil. Bref, Guillaume Ancel, hein, aujourd'hui on a parlé de polémologie, la science qui étudie la guerre, pas dans le sens tactique mais plutôt dans ses causes. Une discipline un peu oubliée aujourd'hui au profit des relations internationales par exemple. Étudier les causes de la guerre, c'est pourtant la prévenir, c'est ce que nous a expliqué notre invité Guillaume Ancel, donc ancien officier de l'armée française. Il a participé à des opérations extérieures, notamment au Cambodge où il a rencontré des Khmers rouges et Florence Jimalak, notre programmatrice. Rassurez-vous, tout ce qui se passe à Phnom Penh reste à Phnom Penh, Guillaume. En tout cas, cette expérience lui a forgé une réflexion sur ce qu'est la guerre. Pour lui, deux causes sont à l'origine des conflits. D'abord, l'appel à la radicalité, à la violence. Face à un problème, on s'en prend à l'autre. Et puis, l'incapacité à trouver un accord. Au final, c'est la recherche du pouvoir qui est à la source de toute guerre. Cette réflexion, notre invité a pu se la forger au fil des années. Il nous a notamment cité un camarade qui disait que la guerre est une succession de saloperies. Les militaires sont payés pour la faire et à se taire. Et on pourrait ajouter et à ne pas réfléchir. C'est pour cette raison que, contrairement à Manon Mariani, on appelle l'armée française la grande muette.
C'est bien vu. Merci. Il y a l'expression consacrée hein, que citait Cyril tout à l'heure dans l'open space, c'est pas du tout ce que vous disiez.
Non, c'est sec comme un bout de trique. On peut dire aussi dur. Hein.
Non, on ne peut pas dire dur, ça c'est vous qui le dites, ça n'engage que vous, si vous voulez. Merci Pierre Courade. Alors lui, il n'aime pas du tout la guerre, car je cite, il ne veut pas salir ses vêtements. Il dit que si tout le monde prenait soin de ses vêtements, il y aurait moins de morts. Il veut d'ailleurs lancer son propre slogan, Good Steel, No Missile, en français, bien sûr. Voici Ahmed Sparrow.
Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alors, la semaine dernière, on recevait Olivier Mas, ancien de la DGSE, crâne rasé, yeux bleus, barbe grisonnante. Cette semaine, on reçoit Guillaume Ancel, ancien de l'armée, crâne rasé, yeux bleus, barbe grisonnante. Vu que j'ai les mêmes invités, bah, j'ai repris la même chronique. J'ai juste changé quelques mots pour adapter. Guillaume Ancel, bonjour. Alors, vous avez été pendant longtemps un lieutenant-colonel de l'armée de terre, mais le grand public vous connaît car vous avez participé à l'émission Le Loup-Garou. Non, j'arrête, c'est bon. La polémologie, c'est l'étude sérieuse d'un truc pas sérieux du tout. Hein. La polémologie, c'est l'étude de la guerre ou comment on est passé de « sort, on va régler ça dehors comme des hommes » à « préparer les missiles, ils m'ont saoulé, eux ». Alors vous, vous dénoncez le silence dans l'armée. C'est vrai que la chaîne de commande militaire est connue pour sa capacité à instaurer le débat, d'accord ? Les soldats, on les met au pas, ils n'ont pas leur mot à dire. En même temps, c'est pas facile de contredire tes camarades quand ils ont tous des FAMAS. Hein ? En France, concernant les jeunes, plus de 51% des jeunes sondés se disent désormais prêts ou peut-être prêts à s'engager si la protection de la France nécessitait que le pays s'engage dans la guerre en Ukraine. Mais seulement 17% d'entre eux se déclarent certains de ce choix. Ça veut dire que 34% des jeunes, parmi les 34%, il y en a, ils ont dit « Tu veux faire la guerre ? Oui. T'es sûr ?» J'avoue, là, c'est chaud. En plus, il y a mon cousin qui vient, là, ça va être compliqué. Le problème avec les jeunes, c'est qu'ils sont habitués aux jeux de guerre, à Call of Duty. Et quand tu te caches quelque part dans Call of Duty, tu te fais tirer dessus, tu récupères des points de vie. Ouais, ils vont être choqués quand ils vont se prendre une balle et se mettre à l'abri et crier « Putain, pourquoi ça s'arrête pas de saigner, là ?» Moi, je pense que les conflits partent tous de les mêmes histoires, à peu près. Tu vois, c'est toujours les mêmes choses. Par exemple, les conflits, c'est souvent une histoire de frontières. Alors, déjà, moi, à l'école, déjà, j'avais des problèmes de frontières avec mes camarades. Quand mon camarade empiétait sur ma table, ça jouait des coudes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste que maintenant, c'est plus les mêmes moyens. C'est juste que maintenant, les coudes, ils ont des têtes chercheuses. Bon, après, pas pour tout le monde. Hein. Il y en a pour qui les coudes, ça reste des coudes. Hein. Il y a des guerres où on assiste à des coudes contre missiles. Donc, du coup, plus de coudes, plus de tables, plus d'école. J'ai appris, moi, sur les guerres à l'école, moi, c'est vrai. Et j'avais une petite préférence concernant les guerres, c'est la guerre froide. Moi, c'est ma guerre préférée. Parce qu'il n'y a pas eu de mort. Voilà, c'est la plus longue bataille de regard de l'histoire. Non, c'est vrai, c'est une guerre de propagande. Et les Américains, ils ont gagné parce qu'ils avaient Hollywood, en vrai. Tu vois, Hollywood, c'est le meilleur outil de propagande jamais créé. Ils nous ont fait croire que les méchants, c'était toujours les Russes. Bon, j'avoue, en ce moment, c'est les Russes. Mais c'est vrai, comme ils ne pouvaient pas tuer les Russes, en vrai, ils les tuaient dans les films. Rambo, il a niqué plus de Russes que le froid de Sibérie. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est chaud. Et moi, je me dis, c'est sûr, les Russes, ils ont fait des films. Mais on les a jamais vus, c'est sûr. C'est sûr, il y a des Rambovitch, tu vois, qui tuent des Américains bouffeurs de hot dogs, c'est ça le... Non, tout ça pour dire qu'au final, la guerre, c'est comme un mec bourré qui te dit, qu'est-ce que t'as un problème, et qui, au lieu de se battre, il envoie quelqu'un à sa place, tu vois. Franchement, au lieu d'envoyer des soldats, envoyons les présidents, ils se battent sur un ring en slip de sumo, et que le meilleur gagne. C'est vrai, ça coûtera moins cher, et ça fera une bien meilleure audience. Merci beaucoup, messieurs, dames.
Merci, Amel, et les grands esprits se rendent compte à cette idée de mettre des présidents sur un ring. J'avais ça quand j'étais petit, je me disais, mais pourquoi on fait pas ça plutôt que de faire la guerre? Finalement, c'est une brillante idée. Merci, Amel Sparrow, on se retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Merci Guillaume Ancel pour ce cours d'initiation à la polémologie. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, sorti chez Flammarion. Et je signale aussi qu'en mars, vous sortirez Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur du combat, aux éditions Autrement, tout en programme. Bon, vous reviendrez. Et aussi, si on est vraiment fan de vous, qu'on peut pas s'empêcher de vous lire, on peut vous retrouver sur votre blog Ne pas subir. Zoom Zoom Zen.